matin, on va vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Ce matin, Dieu va nous parler d'une manière particulière parce qu'il est là. Parce qu'il n'a pas raté rendez-vous, parce que sa présence est là. C'est pas la présence de Dieu qui arrive à partir du moment où on est juste là, c'est lui, il a déjà prévu ce rendez-vous. Il nous a dit, mais je t'attends. Toi qui es là ce matin, quand tu es à ton écran, je t'attends et j'ai un message pour toi. Et je crois que ce matin, si on est prêt à recevoir, Dieu va bénir. Je lisais ma Bible ce matin, je lisais ce texte qui nous parle d'un semeur qui sort pour semer. Et la semence va être jetée, la parole va être donnée, et certaines terres vont recevoir et d'autres ne vont pas recevoir. Mais ce qui m'a interpellé, c'est la dernière terre. Alors qu'il va jeter cette semence sur cette dernière terre, la Bible nous dit que la terre, elle était prête à recevoir. Il y avait de la bonne terre. Et elle va porter du fruit. Et encore du fruit, et encore du fruit. Ce matin, le désir de nos cœurs, c'est que nous soyons cette terre malléable. Écoute de ta voix. Je vais être à l'écoute de ce que tu as prévu pour moi. Tu vas pouvoir pousser. Et tu vas pouvoir porter du fruit dans ta vie. Alors est-ce qu'on est prêt ce matin à vivre ça, ce moment ce matin? Et Dieu va encore venir nous trouver et parler à nos cœurs. Je vous inviterai simplement à nous dire, Seigneur, on est devant toi. Avec cette joie de se retrouver les uns avec les autres. Avec la joie, Seigneur, de pouvoir reprendre ce culte de plein, on veut dire manifeste ta présence au milieu de nous. Je te demande une bénédiction pour prendre. Tu vas venir nous parler, tu vas nous étonner. Seigneur, je te bénis de ce que tu es présent, de ce que tu nous accompagnes, de ce que tu nous portes et tu nous soutiens. Je veux dire ce que tu nous dis dans ta parole en action. Venez, approchez-vous, déchargez vos fardeaux. C'est ce qu'on veut faire ce matin. Et c'est toi qui nous dis, mais je suis là et je prends soin. Seigneur, merci encore de ce qu'on peut déposer nos fardeaux à tes pieds et de ce que encore ce matin, tu es là, tu es présent. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le peuple dit, Amen. Amen.
Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons inonde ce lieu de ta présence. De toi inonde, inonde ce besoin de toi inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Viens, esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. De toi.
Oh oui, viens.
Viens, esprit de révélation.
Souffle,
souffle sur nous. Souffle sur nous.
Oui, viens.
Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous.
Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Tu règnes, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'à moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons
besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies.
Et qu'à moi
se lève un chant, une mélodie. Témoignant de ta grâce infinie.
Oh, inonde,
inonde. prenons ce lieu de ta présence.
Nous avons
besoin de toi.
Inonde
ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
Oh oui, viens.
Viens, esprit de révélation.
Souffle
sur nous. Souffle sur nous.
Oui, viens.
Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous.
Souffle sur nous, Seigneur, ce matin, car c'est si bon de te louer, c'est si bon de t'élever, et nous sommes là ce matin pour ça, Père. Sois glorifié, Seigneur. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment,
c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment,
oui,
c'est si bon de louer son nom,
de
chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité.
Chaque
jour infiniment,
alors disons la
la la la la la la. C'est si bon de louer son nom,
de
chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment,
et moi là.
C'est si bon de louer son nom,
de
chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment,
oui,
c'est si bon de louer son nom. De chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment.
Oh oui, Seigneur.
Amen.
Amen. Tu es bon, oh Seigneur. Nous voulons le déclarer une fois de plus ce matin. Oh oui, tu es bon, Seigneur. Pour nous, ta bonté durera toujours. Envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Dieu,
tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te te louons pour qui tu es.
Nous te louons.
Nous te louons.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous te louons pour qui tu es.
Tu es bon. Nous le déclarons ce matin que tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. De toutes les nations, de génération en génération, nous te louons.
Alléluia,
alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es.
Jamais
nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons.
Alléluia,
alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es.
Combien tu es grand. Nous voulons une fois de plus le déclarer.
Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand.
Cada
jornage, il vit, le temps lui est. vin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, chantons combien Dieu est grand, chantons-le. Tous verront combien Dieu est grand. Oui, son nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève le chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève le chant, Dieu Tout-Puissant, que tu Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant.
Seigneur, je veux te remercier, je veux te dire merci, Papa, pour cette journée. Merci, Papa, pour cette opportunité, Papa, que tu nous as donnée de nous tenir dans ta présence. Quelle grâce imméritée, Papa, de pouvoir te chanter, te louer, t'adorer avec les anges, Papa, pour tout ce que tu as fait, même pour ce que tu n'as pas fait, Seigneur. Nous voulons te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Reçois, Papa, Seigneur, mon Dieu, ce culte, Papa, comme un parfum de bonne odeur. Agrée cela, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Papa, que nous sommes là rassemblés. Parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois papas se réunissent, tu es là. Et nous savons que ta présence est là, Seigneur. Merci, Seigneur, d'exister. Alléluia.
Je voudrais soumettre à l'Église cette pensée. Dieu est infiniment grand. Il est infiniment puissant. Et son amour est à la portée de sa puissance et de sa force. Il est le créateur de toutes choses. Et pourtant, il s'intéresse aux plus petits. Et son cœur est grand et énorme pour son Église. Son cœur est prêt à se laisser toucher par son Église. Alors considère la vie de David. Est-ce que c'est lorsqu'il était tranquille, lorsqu'il était calme, qu'il a connu Dieu, qu'il a compris le cœur de Dieu? Non, c'est lorsqu'il était chassé, pourchassé, quand il cherchait des forces, de l'appui. C'est là qu'il a découvert le cœur de Dieu. C'est là qu'il a pu s'appuyer sur la fidélité de son Dieu. Alors considère, Église de Jésus-Christ, considère ce temps. Ce temps, cette épreuve, n'est pas pour te diminuer, n'est pas pour te mettre à terre, mais au contraire, ce temps est un temps de cœur à cœur avec Dieu. C'est un temps pour que tu apprennes la fidélité de Dieu. C'est un temps pour que tu apprennes la proximité de Dieu. Ce temps est un temps pour toi. C'est un temps que le Seigneur veut avec toi. Alors laisse-toi toucher par la puissance de Dieu. Laisse-toi surtout toucher par son amour. Car son amour est au-dessus de toutes choses. Et son amour est pour toi, Église de Jésus-Christ.
Amen.
Seigneur, nous croyons que quand nous sommes limités, toi, tu es grand, tu es puissant. Et Seigneur, encore à travers cette parole, nous voulons saisir qu'il y a un temps de cœur à cœur à vivre avec toi ce matin. Tu connais les épreuves par lesquelles chacun est en train de passer. Mais nous savons que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Et que nous appartenons au roi des rois, nous sommes fils et filles du roi des rois. Seigneur, ce matin, alors qu'on est dans ta présence, je te prie vraiment pour que ton onction vienne renouveler les cœurs et les vies. Je te prie pour un temps de renouvellement spirituel pour celui qui est sur le bord du chemin. Que cette parole soit pas simplement une parole dans le vent, mais que ce soit une parole qu'on puisse saisir pour nous. On veut te découvrir encore plus. Notre secours est en toi, notre vie est en toi. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Et encore ce matin, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos vies. Que ta présence vienne toucher nos vies, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Merci parce que tu es là, tu es le consolateur, tu es le paix, le Dieu de paix. Tu es celui qui est là à chaque instant. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci Jésus. Amen.
Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste mon seul coup. Créateur de la
mon secours est en toi. Ton salut, mon refuge, tout est
ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Pendant que je t'adore, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Nous te donnons tout, Jésus.
Reçois, Seigneur, reçois.
Oh, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Oh oui, prends tout, prends tout, prends tout dans nos vies, Jésus. Oh oui, Seigneur, prends tout, yes. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sois adoré, Père. Oh oui. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur.
Simplement dire, Seigneur, encore ce matin, je suis venu pour te louer, pour t'adorer. Est-ce que je pourrais entendre l'Église louer Dieu? Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Même si t'as pas l'habitude, même si t'es derrière ton masque, commencer à louer Dieu, commencer à dire des choses bonnes de Dieu. Dieu est grand, Dieu est fidèle. Est-ce que je peux entendre l'Assemblée, même si tu es derrière ta caméra, derrière ton ordinateur, tu commences à louer Dieu, tu commences à grandir dans la louange, à vivre des choses dans la louange. Alléluia, Seigneur, on te bénit. Seigneur, on élève ton nom, Seigneur. On glorifie le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu fais jaillir en nous des fleuves de vie. Merci Jésus pour ta présence. Oh là là là. Merci Jésus de ta présence. Alléluia. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es fidèle et bon. Dieu, ta présence nous réchauffe. Ta présence nous encourage. À toi la gloire, Jésus. Seigneur, c'est si bon de louer ensemble. C'est si bon de pouvoir t'adorer. C'est si bon de pouvoir élever ton nom. Et Seigneur, ensemble, nous voulons dire gloire, louange, honneur au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Nous voulons élever le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous voulons dire que Seigneur, il n'y a pas d'autre personne qui soit comme toi. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es celui qui règne sur nos vies, sur nos réalités. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Et ce matin, nous élevons ton nom. Nous glorifions le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, merci pour ta vie. Merci d'avoir accepté de mourir pour nous, mais d'être ressuscité. Merci parce que la mort n'a pas pu te retenir. Et aujourd'hui, nous avons la vie en Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que ce matin, tu es là. Tu viens nous visiter, tu nous inondes de ta présence. À toi la gloire, Jésus. À toi la puissance et la force. Merci, Père éternel, de ta présence. Que ton nom soit béni. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'est pas bon d'être dans la présence de Dieu? Alors, s'il est bon d'être dans la présence de Dieu, est-ce qu'on peut l'applaudir, lui, le seul vrai Dieu? Vous savez, je crois qu'il y a des choses qui se passent quand on commence à louer Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on prononce un nom qui est plus grand que tous les autres noms. Malgré nos difficultés et nos réalités, Dieu est fidèle. Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. C'est avec beaucoup de joie qu'on est ensemble ce matin. Et je ne sais pas si vous avez bien retenu l'information, mais c'est un culte particulier aujourd'hui, puisque c'est le culte de l'entente. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont assisté au culte de l'entente ? Ici, chaque année à l'EPI, on accueille le culte de l'entente, ce qui représente à peu près 1200-1300 personnes qui reviennent. Et comme vous vous en doutez, aujourd'hui, on ne peut pas le faire de manière physique, on ne peut pas tous se réunir. Alors le comité directeur de l'entente a décidé que l'ensemble des églises qui font partie de l'entente, qui sont les églises de l'Eurométropole de Strasbourg, les églises évangéliques, a décidé qu'on allait faire un culte de l'entente, mais chacun chez soi, mais avec le même message. Et on va partager un message, on va regarder ensemble une vidéo, le partage d'un message qui vient de Samuel Peter Schmidt, que vous connaissez tous bien, qui est un message spécifique pour la ville de Strasbourg. Et alors que nous, on est réunis ici à l'EPI, dans l'ensemble des églises, à l'EBS, à la Bonne Nouvelle de Lingo, à la Bonne Nouvelle de Strasbourg, ils sont réunis et ils vont vivre le même message que nous. Et je crois qu'on a quelque chose à vivre encore ce matin. Alors je vais vous inviter vraiment à être attentifs dans ce qu'on va vivre dans la suite, parce que Dieu a un message pour la ville de Strasbourg. Et je crois que même s'il y a des choses qui semblent nous arrêter, l'œuvre de Dieu, elle, ne s'arrête jamais. Amen. Dieu est puissant et Dieu agit encore aujourd'hui. Alors ne doute pas, parce que Dieu est fidèle. Amen. Avant de laisser la place à Samuel Peter Schmidt, du coup, je vais vous faire quelques annonces. Simplement que... Vous pouvez toujours nous contacter via le mail, vous connaissez maintenant, via le numéro de téléphone. Pour ceux qui sont sur Internet, ça s'affiche. Via le site web, vous pouvez également nous contacter. Aujourd'hui, on a la joie aussi d'avoir la reprise de l'épisode. Donc, vous ne le voyez pas là forcément, mais il y a plein d'enfants qui sont en bas. Dans les gestes, dans les normes, dans les gestes barrières, tout est respecté, mais on accueille une trentaine d'enfants aujourd'hui. C'est un premier démarrage. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais tout est fait, tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent passer un bon moment. Donc, dès la semaine prochaine, si vos enfants entre 4 et 13 ans, n'hésitez pas à les inscrire. Il y aura un billet spécial pour les enfants et vous pouvez encore les inscrire et on sera heureux de les accueillir. Et comme vous le voyez, plus on avance, plus moins il y a de place de disponible.
Donc ça doit nous engager aussi. À partir du moment où vous inscrivez, alors je parle pas à vous parce que vous êtes déjà là, mais si vous vous inscrivez, s'il vous plaît, venez. Parce qu'après, pour nous, c'est compliqué de gérer. Bah, tiens, telle personne, il est là, il est pas là, on a plus de place, on a de la place. Et pour l'équipe d'accueil, c'est plus simple si vous voulez bien, à partir du moment où vous prenez l'engagement de bien venir, c'est plus simple pour nous. Ou alors de nous appeler, puis simplement d'annuler le billet. Voilà, donc on aura les 4-13 ans qui reprennent, qui continuent la semaine prochaine. On va accueillir à nouveau également les pitchouns. Vous savez ce que c'est, les pitchouns? C'est les tout petits, les 0-3 ans. Et on travaille activement avec un staff qui s'est recréé pour les accueillir de la bonne façon, et on les accueillera avec beaucoup de plaisir le 1er novembre. On a attendu un petit peu parce qu'on veut être sûr de mettre les choses bien, de la bonne façon. Et je sais que vous nous comprenez par rapport à ça. Donc à partir du 1er novembre, on accueillera les 0-3 ans dans des bonnes conditions et on vous redonnera des informations par rapport à ça. Justement, le 1er novembre, retenez cette date-là. Pourquoi ? Parce que le 1er novembre, on aura la joie d'avoir des baptêmes. Non pas un, pas deux, pas trois, mais 11 baptêmes. Amen ! Wouh ! Ça, c'est bon, c'est encourageant. Et ils sont déjà en train de se préparer, ils sont déjà en train de stresser. Je vous le dis tout de suite, mais on est en train de préparer ce culte pour vivre un moment fort. Alors si vous souhaitez venir, inscrivez-vous assez tôt. Le billet va être à disposition assez rapidement. Mais inscrivez-vous assez tôt parce que avec les familles, ça risque d'être un petit peu chargé. Et on ne peut pas aller plus loin que le nombre de places qu'on a ici. Donc inscrivez-vous assez tôt. Donc retenez, le 1er novembre, ça va être un culte de joie, de fête. On va vraiment vivre un moment extraordinaire. Retenez également cette date, le samedi 7 novembre. Et si tu peux mettre la diapo, on va parler du sommet mondial du leadership le 7 novembre, le SML, qu'on vit chaque année, que vous connaissez, on le vit ici en présentiel. Et cette année, ça va être un peu exceptionnel puisqu'on aura l'occasion d'avoir différents formats pour que le maximum de personnes puissent y assister. Vous savez que c'est un temps où le leader est encouragé et boosté à travers des messages percutants de personnes qui vivent le leadership, des pasteurs, des leaders qui vont nous encourager. C'est le samedi 7 novembre. Alors si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez déjà flasher le code qui est ici, si vous avez vos téléphones qui le permettent. Sinon, vous allez sur le site www.sommetmondialduleadership.fr et vous aurez toutes les explications pour vous inscrire. En plus, le tarif est réduit, c'est vraiment l'occasion d'être avec nous. Donc retenez bien, samedi 7 novembre, l'après-midi, on va passer une après-midi ensemble à se faire du bien avec des conférences d'une grande qualité. Ça va pour tout le monde ? Allez, je vous le dis entre nous, en plus on a une oratrice qu'on connaît très bien ici. C'est Anita Sobler qui sera en live avec nous et qui va nous bénir. Elle nous parlera depuis Valence, mais elle sera en direct. Et on va être béni à travers ce qu'elle va nous apporter. Anita, je t'ai affiché, comme ça c'est fait. Aussi également, retenez bien que le 25 octobre, la semaine prochaine, on change d'heure. Juste une petite annonce comme ça qui passe bien, mais n'oubliez pas malgré tout, parce que ça veut dire qu'on va dormir. Alors plus ou moins, je sais pas, vous demanderez à votre voisin. Moi je sais jamais, je sais juste que mon téléphone il change tout seul. Mais on change d'heure la semaine prochaine, faites attention à ça. Vous avez également entendu que notre président de la République a pris la parole mercredi par rapport à un ensemble de restrictions, de recommandations par rapport au rassemblement. La seule aujourd'hui restriction qui nous concerne directement et concerne les groupes de maison, où on demande aux responsables de groupes de maison de ne pas dépasser les 6 personnes pendant leur réunion. Et on va être attentif à ça pour que on n'ait pas de soucis de ce côté-là. Les textes sont en train de sortir, donc on n'a encore pas toutes les informations. On vous tiendra au courant. Aujourd'hui, on peut continuer à se rassembler ici à l'EPI, dans la mesure où on respecte les gestes barrières, dans la mesure où il y a un mètre entre chaque personne. Donc on peut continuer, mais vous comprenez bien aussi que on va pas adoucir nos règles, mais on va garder notre standard. Depuis le début, on a un standard assez élevé. Donc c'est pour ça que vous avez le masque, c'est pour ça que vous mettez une voiture sur deux, c'est pour ça que vous avez une équipe d'accueil qui travaille d'arrache-pied pour vous accueillir de la meilleure des façons, qu'il y a des gens qui nettoient les toilettes. Donc on va garder nos normes, on va aller jusqu'au bout parce que vous avez vu comme moi les informations et on va être vigilant sur chaque aspect. Ça va pour vous ? Ok ? Impeccable. Une dernière annonce, promis après j'arrête de parler, je vous promets. Une dernière annonce, aujourd'hui comme c'est le culte de l'entente, je ne sais pas si vous avez vu sur le tronc, et sur le tronc à la sortie il y en aura également, les offrandes seront dirigées vers l'entente. C'est-à-dire que les offrandes qu'on va récupérer vont être données à l'entente et l'entente s'occupera de les rediriger de la bonne façon, mais vous aurez une annonce par rapport à ça. Donc si vous avez à cœur de bénir l'entente, donc l'ensemble de ces églises qui travaillent sur l'Eurométropole de Strasbourg, eh bien ça sera aujourd'hui. Si vous avez déjà fait un chèque à l'ordre de l'EPI, vous pouvez quand même le mettre dans le tronc et notre cher Freddy s'occupera de faire le tri. Merci Freddy d'assurer tout cet aspect. Vous savez qu'il fait un gros travail Freddy. Il y a du boulot et on le remercie, ainsi que chaque membre du conseil d'administration. l'administration qui travaille avec nous. Je crois que j'ai fini. Et est-ce que vous êtes prêts à entendre le message maintenant? Ouais, ça va? Est-ce que, y a quelqu'un qui est super motivé, je ne sais pas qui, mais c'est chouette, excellent. Et maintenant, on va passer à cette vidéo et que Dieu vous bénisse à travers ce message. On se retrouve juste après.
Chers amis, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui à Strasbourg. Dans le cadre de ce culte de l'entente, je veux remercier les organisateurs qui me font confiance et m'ont invité à prendre la parole aujourd'hui. J'aurais bien sûr préféré être avec vous et pouvoir me réjouir dans une communion fraternelle, mais la situation étant ce qu'elle est, nous sommes heureux d'avoir déjà des moyens techniques qui nous permettent de communier même à distance. Je voudrais, comme thème aujourd'hui, eh bien, parler de l'Église sous pression. L'apôtre Paul, parlant dans sa deuxième épître aux Corinthiens, dira au chapitre 4, verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Pour introduire mon propos, permettez-moi juste une analogie avec la manière dont finalement le diamant se forme dans la terre. Voyez-vous, je crois que le désir de Christ, c'est que son Église brille, brille de mille feux, qu'elle soit cette lumière qui éclaire également les hommes dans la société dans laquelle nous vivons. De la même manière, avant que le diamant ne brille, eh bien, ce dernier va subir des pressions. Lorsqu'il se forme, à environ 150 à 200 km sous la surface de la Terre, dans une atmosphère très chaude, 1500 degrés, mais surtout avec une pression extraordinaire, 75 tonnes par centimètre carré. Et c'est sous cette pression que finalement, eh bien, le carbone pur va cristalliser et devenir ce diamant, ce minéral transparent qui est tellement convoité. Chers amis, pour que l'Église brille de mille feux, il faut qu'elle passe aussi par des moments de pression, des moments que décrit l'apôtre Paul. Sous la pression, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Nous sommes parfois surpris de la manière dont nous réagissons. Entre le moment où nous sommes sans pression et sous la pression, il y a souvent des visages qui se révèlent en nous que nous n'aurions pas imaginés. Voyez-vous, je prends l'exemple de Pierre. Pierre sera interpellé par Christ. Écoutez, Jésus lui dit dans Matthieu 26, « Je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Mais voilà, la pression est arrivée. Cette servante va commencer à l'interroger, « N'étais-tu pas un des siens, l'un de ses disciples ?» Et sous la pression et avec la peur, eh bien finalement, Pierre va le renier. Il reniera son maître. Il était convaincu qu'il lui resterait fidèle. Mais non, malheureusement, il le reniera. Chers amis, nous-mêmes pouvons être, suivant les circonstances, déçus de nos propres réactions lorsque nous sommes sous pression. Ce même Pierre, par contre, quelque temps plus tard dans le livre des Actes, alors qu'il est à nouveau menacé par les chefs religieux, par le commandant du temple, par les sacrificateurs qui leur interdisaient à lui et à Jean d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, ce même Pierre va leur dire « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Il résistera à la pression. Il résistera à la peur. La pression fait naître toutes sortes de réactions. Le jeudi 24 octobre, vous vous en souvenez certainement pour certains d'entre vous, 2019, nous étions à Strasbourg ensemble sur la place Kléber, et ceci pour manifester pacifiquement en faveur des croyants algériens sous le hashtag « Je suis chrétien algérien ». Nous étions donc sur cette place et à cette occasion, j'avais été l'un des orateurs qui s'était exprimé sur la plateforme qui avait été dressée. Et je voudrais juste vous lire un extrait de ce que je disais ce jour-là. Je disais, chers amis, merci d'être venus aussi nombreux en cette fin d'après-midi pour apporter votre soutien et votre voix à la minorité chrétienne en Algérie. En effet, nous sommes sur cette belle place Kléber, ici à Strasbourg, où siège le Parlement européen, pour nous rappeler un droit fondamental et élémentaire propre à toute société dite démocratique, celui de la liberté religieuse. Nous avons le privilège de vivre en France, pays des droits de l'homme, où cette liberté nous semble élémentaire et normale. Qui de nous se lève le matin en se posant la question « vais-je pouvoir aller à l'église, ou au temple, ou à la mosquée, ou encore à la synagogue, à la pagode, ou dans un autre lieu pour célébrer mon culte librement ?» Qui de nous se lève en se demandant s'il peut, dans le respect de la loi, partager ses convictions religieuses avec les autres citoyens de ce pays, ses voisins, ses amis, ses collègues, sans avoir peur de voir sa liberté être menacée ? Qui de nous se lève en ayant peur qu'à cause de ses croyances, il pourrait voir sa liberté être restreinte ? Personne. Pourquoi ne nous posons-nous jamais cette question ? Simplement parce que nous avons le privilège de vivre dans un pays qui nous assure cette liberté sur la base de sa constitution et de la Déclaration des droits de l'homme. Fin de citation. J'avais, à l'occasion de ce rassemblement, invité également les membres de notre Église à se déplacer jusqu'à Strasbourg, place Kléber, en leur disant « Mais aujourd'hui, nous allons manifester pour la liberté des chrétiens algériens, mais qui sait ?» Qui sait si un jour l'on ne viendra pas fermer nos églises ? Qui sait si un jour nous ne serons pas dans la même situation qu'eux ? Qui sait si ce jour-là nous ne serons pas heureux que d'autres aillent sur des places publiques pour manifester en notre faveur ? Eh bien, chers amis, comme vous, je n'imaginais pas un instant, mais pas une seconde, que 4 mois plus tard, notre église, à partir du 1er mars, fermerait ses portes. Et ceci pour une durée de 4 mois. Nous avons recommencé à célébrer nos premiers cultes le 12 juillet. Je n'imaginais pas que nous serions sous pression, projetés sur l'avant de la scène médiatique, que nous connaîtrions une vague d'accusations absolument injustes et infondées, mais trouvant de l'écho auprès des médias et de la population. J'ai connu dans cette période toutes sortes de pressions, des autorités qui me conseillaient de ne plus retourner à l'église au vu de ce qui se passait. Inimaginable dans notre pays, la France. Et tout d'un coup, chers amis strasbourgeois, tout d'un coup, nous voilà sous pression. La pression de la pandémie a agi comme un révélateur. Et c'est mon premier point. Elle agit comme un révélateur pour tous les amis qui sont du dernier millénaire, et je pense qu'on est quand même encore plusieurs à être du dernier millénaire, même si la jeune génération n'a pas forcément connu ce dernier millénaire. Vous vous souvenez que lorsqu'on développait des photos à l'époque, eh bien, on plongeait la pellicule dans un produit chimique que l'on appelait le révélateur. Et finalement, lorsque la pellicule était dans le révélateur, petit à petit, les images apparaissaient sur les différentes photos. Et parfois, nous avions des surprises, parce que l'image qu'on attendait n'était pas forcément... L'image qu'on avait prise n'était pas forcément celle qui était en train d'apparaître, ou pas tout à fait celle qui était en train d'apparaître. Bien, il me semble que la pression que nous vivons, eh bien, agit comme le révélateur. Elle révèle différentes choses. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants là-dessus. Elle nous a révélé la société, peut-être comme nous ne l'imaginions pas en France. Une société avec différents visages. Je vais simplement en voir 2 avec vous. Évidemment, ça peut paraître caricatural puisque le temps nous manque pour développer le sujet. Mais ce que nous avons découvert, c'est soudain, en France, eh bien des manifestations d'égoïsme, des menaces des personnes qui s'insultent, des magasins dévalisés. Qui aurait jamais pensé voir ça un jour en France ? Lorsque le confinement a été annoncé, les gens se sont précipités, on remplissait les caddies et plus personne ne regardait si l'autre avait quelque chose. C'était au premier qui se servait. Un visage de la société que nous ne pouvions pas imaginer, ne serait-ce qu'une semaine auparavant, sous la pression, comme un révélateur. Ce visage s'est affiché, mais voyez-vous, j'étais aussi impressionné par les médias, par certains politiques. La porte ouverte, par exemple, nous avons connu soudain des pressions venues de déclarations politiques. La sénatrice du Haut-Rhin qui déclare que nous étions finalement comme les djihadistes qui embrigadions les enfants. Mais vous m'auriez dit ça au mois de janvier, je ne vous aurais jamais cru. Et là, soudain, nous voilà stigmatisés. Et soudain, nous voilà exposés à la vindicte publique. Ce fut un, je peux vous le dire, chers frères et sœurs, ce fut pour moi un réveil douloureux. Quand j'ai vu les messages de haine qui défilaient sur les réseaux, entre guillemets, dits sociaux, des menaces. Il faut que le chef de la secte crève, il faut allumer l'église, il faut les descendre à la Kalachnikov, etc. Chers amis, au mois de février, nous étions encore rassemblés ici, nous chantions, nous étions des milliers de personnes à chanter, à adorer Dieu, à nous réjouir. Et une semaine après, nous voilà face à une violence que nous n'aurions jamais imaginée. Et je réalisais soudain, à ce moment-là, qu'au-delà du sujet de la Covid-19, nous étions attaqués pour ce que nous étions, des chrétiens qui aiment Jésus et témoignent de leur foi. Voilà ce qui était la réalité de ce que nous étions en train de vivre. Je me souviens avoir dit à une journaliste, moi qui pensais que le Moyen-Âge était passé, moi qui pensais qu'on n'avait plus eu besoin de boucs émissaires, eh bien, il semblerait que, comme en 1349, où on a brûlé 2000 juifs dans la ville de Strasbourg, les accusant d'avoir empoisonné les puits et d'être à l'origine de la peste, aujourd'hui, finalement, on retrouve cette volonté de trouver des boucs émissaires. La persécution me semblait lointaine. C'était la Chine. C'était dans des pays totalitaires. Vous savez, au mois de janvier, si vous m'aviez interrogé, j'aurais dit oui, mais évidemment, il y a des frères qui souffrent en Inde du Nord, etc. Dans certains pays du Moyen-Orient, les églises sont persécutées. Mais soudain, cette pandémie m'a amené à réaliser que la persécution était présente. Elle n'est pas à venir. Elle est simplement contenue et retenue par des lois, et les droits de l'homme qui ne forment qu'un fragile mur de protection autour de l'Église sous un manteau de laïcité, chers amis. Sous un manteau de laïcité est caché un sentiment anti-religieux et en particulier anti-chrétien. Cette pandémie venait de me faire exploser à la figure cette réalité qu'annonçait Christ, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Avant, c'était en Algérie, je le pensais, c'était en Chine, mais là, soudain, c'était là, sous ma fenêtre, sous mes yeux. C'était nos membres, c'était l'Église de Christ, des églises en France, qui étaient taguées, qui étaient attaquées. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul visage de la société. Il y a eu un autre visage, un visage encourageant, ce visage dans lequel on a vu des élans de solidarité, ce visage dans lequel on a vu des gens applaudir tous les soirs le personnel soignant. Ceci dit, si cette pression a été révélatrice pour l'Église, pour la société, pardon, cette pandémie est aussi un révélateur pour l'Église. Elle a, sous la pression, révélé l'Église, son état. D'une part, nous avons pu voir rapidement des fractures, des divisions. Il a été surprenant pour moi de voir à quel point certains pans de l'Église essayaient d'expliquer pourquoi nous venions d'être atteints par la Covid en disant que certainement c'est une malédiction, certainement nous avions péché, certainement ceci, certainement cela. Quelle surprise! Je dois dire que personnellement, ça m'avait touché, ça m'avait rendu triste. Mais d'autre part, j'ai vu aussi un visage de l'Église extraordinaire, un élan d'amour, bien sûr d'amour tout d'abord de la part de nos frères et sœurs dans l'Église même, d'une solidarité que je n'aurais pas soupçonnée encore quelque temps avant. Je voudrais également me rappeler ces moments où nous avons soudain reçu du soutien, de l'aide de toutes les églises un peu de partout, au-delà des dénominations. J'étais tellement encouragé. D'ailleurs, merci aux églises strasbourgeoises qui nous ont manifesté leur affection dans ce moment-là et qui ont prié pour nous. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, j'ai vu la manifestation d'amour d'églises et de gens que je ne soupçonnais pas pouvoir être de ceux qui nous aimaient et qui nous soutenaient. Ce qui m'a amené à m'humilier devant Dieu. Ce qui m'a amené à lui dire, mais comment ai-je pu juger aussi rapidement? Soudain, de milieu inattendu, nous était venu un soutien indéfectible. Non seulement le visage de l'Église s'est révélé sous ses différents aspects, mais il y a aussi eu un révélateur de l'état de nos propres cœurs. Et chers amis, je vous parle maintenant individuellement, nos propres cœurs, sous la pression, ont manifesté différentes attitudes. Un constat qui a été fait par des responsables nationaux a été le suivant. Un quart... Alors bien sûr, les chiffres que je vous donne, c'est un peu caricatural, mais voilà à peu près les proportions que l'on a données. Un quart des chrétiens ne retournent pas dans leurs églises après le déconfinement, à cause de la peur. Loin de moi de les juger, je peux comprendre que cette maladie effraie. Et puis, un autre quart, peu enraciné malheureusement, petit à petit retourné dans le monde. Certains sont devenus rétrogrades, sont retournés dans leurs vieilles habitudes. Et puis l'on a découvert, sous la pression de cette pandémie, que finalement, un quart des croyants ne retournaient pas à l'église. Ils ont découvert le culte à la carte en restant à la maison en pyjama et en buvant le café. Et on s'est rendu compte qu'une partie de l'église là, a commencé à préférer le confort d'un foyer dans lequel on pourrait rester sans l'effort de se lever, de rejoindre une communauté, etc. pour laisser place à un quart qui lui, n'avait qu'une envie, c'était de se retrouver, célébrer Dieu avec ses frères et ses sœurs, malgré les conditions difficiles liées à la Covid, malgré les distanciations, malgré les masques, etc. Un désir de communion. Quelle surprise! J'ai vu des pasteurs me dire, mais je suis tellement surpris, je suis tellement atterré. Mais finalement, voyez-vous, quand le Saint-Esprit sonde les cœurs, lui ne voit rien d'autre que la réalité. Cette réalité qui maintenant vient au grand jour. Et il ne s'agit pas de faire le procès de quiconque, il s'agit juste de dire, mais cette pandémie est révélatrice. Révélatrice d'un état, révélatrice du cœur des croyants, révélatrice de l'état de l'Église, révélatrice de mon propre cœur. Et le Saint-Esprit, quand il passe dans nos rangs, que nos églises soient pleines ou pas, lui ne voit rien d'autre que la réalité. Cette réalité qui peut-être est devenue plus visible au travers de ce que nous avons vécu. Alors, ma question c'est qu'allons-nous apprendre de cette période? Tout d'abord sur la société. Sans m'étendre, vous le comprendrez. Eh bien, nous avons vu que cette société sous pression révèle un visage bien plus hostile aux chrétiens en France que nous pouvions l'imaginer avant cette crise. Une haine populaire, un antichristianisme qui sommeille et qui est appuyé au fond finalement de certains de nos contemporains, qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer. L'Église ne pourra plus jamais dire « nous ne savions pas ». Cette crise nous a révélé un antichristianisme beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus violent que ce que nous pouvions penser. Nous ne le soupçonnions pas dans cette mesure-là. Sur l'Église, que pouvons-nous apprendre? Eh bien, Je vais répondre à la chose suivante. Je crois que l'Église occidentale, l'Église en France et en Europe, démontre beaucoup de fébrilité, de fragilité. L'Église en Occident s'est habituée au confort qui, petit à petit, a amené cette dernière à se construire, non pas avec Christ au centre, mais finalement avec l'homme au centre. Combien de chrétiens aujourd'hui ne manifestent pas l'attitude d'un disciple de Christ, mais plus d'un consommateur spirituel. D'ailleurs, le culte doit être organisé en fonction du bien-être des uns et des autres. Il y aurait énormément de choses à dire. Je voudrais peut-être juste m'arrêter en nous disant, mais que nous apprend l'Église du 1er siècle sous pression? Que nous apprend-elle? Voyez-vous, Pierre et Jean, je l'ai dit tout à l'heure, étaient menacés par les principaux sacrificateurs et les anciens. Ils ont été mis sous pression avec l'Église de l'époque. Et voilà ce qu'ils disent. Dans Actes chapitre 4, verset 29, ils élèvent leur voix pour prier et disent « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Qu'un cœur et qu'une âme. Sous la pression, ils ne se sont pas divisés, non. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nous découvrons là une Église qui, sous la pression, va s'aimer. Une Église dont Dieu est au centre. Et voyez-vous, ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est que cette Église-là ne prie pas « Oh Dieu, délivre-nous de la menace. Oh Dieu, délivre-nous de la pression. Oh Dieu, arrache-nous à cette pression. » Non, non. La prière formulée révèle la priorité de cette Église et de ses membres. Et maintenant, verset 29, « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Leur seule préoccupation, c'est que l'Évangile soit annoncé. Leur préoccupation n'est pas que la pression soit enlevée, que l'Évangile soit annoncé, que ce Christ qu'ils célèbrent pendant la Sainte Cène, mort pour eux, pour le pardon du péché de tous les êtres humains, que ce Christ soit prêché par toutes les nations. Une Église dont Christ est le centre de la préoccupation. Une Église dont l'importance de l'œuvre de la croix doit être annoncée à tous les hommes. Une Église composée de disciples et de témoins de Christ. Cette Église-là, qui était le résultat de ce qui s'est passé à la Pentecôte, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Des témoins. Vous savez que le terme grec a donné le français martyr lorsqu'on parle de témoins. Car les chrétiens ont souvent dû payer le prix fort pour avoir témoigné de leur appartenance à Christ. De cela furent Étienne, bien sûr, mais il y a quelques jours, j'étais sur les traces de Zwingli, le réformateur, et je pouvais voir là une plaque commémorative qui avait été inaugurée en 2004 sur les bords de la rivière La Limate qui traverse Zurich, où en souvenir de Félix Mans, un théologien anabaptiste qui fut exécuté par noyade en 1527 avec plusieurs de ses coreligionnaires à cause de leur foi. Cette plaque était là pour souvenir cet événement. Et je me dis, mais entre ces hommes, entre ces disciples des premiers temps, entre cette Église qui n'avait qu'une préoccupation, annoncer l'Évangile, peu importe la pression, et l'Église d'aujourd'hui, il y a une telle différence. Si nous tremblons devant la Covid, que ferons-nous face à la persécution? Que ferons-nous quand on proposera de nous noyer? À Zurich, j'ai vu également l'endroit où Félix et Régula, des croyants du IIIe siècle, avaient été décapités à cause de leur foi. Mes amis, qu'allons-nous faire? J'aimerais vous dire, loin d'être découragés, je regarde cette période de notre histoire au travers de cette pandémie comme une opportunité extraordinaire. mais vraiment extraordinaire, que Dieu nous donne pour que nous regardions avec lucidité l'état dans lequel est notre société, l'état dans lequel est l'Église et l'état dans lequel nous sommes. C'est un moment extraordinaire qui nous permet d'évaluer et mesurer chacun d'entre nous où nous en sommes avec Christ. C'est aussi un moyen extraordinaire pour prendre conscience que, comme je le disais tout à l'heure, non, la persécution n'est pas très très loin. Elle est très proche, elle est juste encore contenue. Et c'est Dieu qui permet qu'elle soit contenue. Mais alors, que faire ? Eh bien, j'aimerais vous dire ce que Christ dit. Il nous faut faire ce que Christ a fait et ce qu'il nous dit de faire. Il dira, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, le constat que je fais malheureusement aujourd'hui, en regardant les critères que le Christ utilise pour nommer quelqu'un disciple, c'est que finalement, au XXIe siècle, il n'y a pas autant de disciples que ça dans les églises. Nous avons des paroissiens, nous avons des membres, parfois des membres d'associations, mais des disciples. Vous savez, quand on m'explique qu'on n'a pas le temps de lire la Bible ou de prier alors que la TV et les réseaux sociaux occupent je ne sais combien de temps de la journée, quand on m'explique qu'il faut vivre avec son temps pour justifier les relations sexuelles avant le mariage ou le concubinage, l'adultère, les relations homosexuelles, je me dis il y a peu de disciples. Quand je vois combien de personnes ne témoignent jamais à leur prochain, n'en éprouvent pas le besoin et ne mesurent pas l'importance d'annoncer Christ, je me dis mais il y a peu de disciples. Lorsque j'entends des personnes qui, parce que le son est un peu trop fort dans leur église, ou parce que quelqu'un d'autre a occupé leur chaise, ou parce que quand ils sont arrivés sur le parking, on ne les a pas accueillis comme ils s'attendaient, ils quittent l'église, je me dis, mais il y a peu de disciples. Pourtant, Christ est venu bâtir son église, et il l'a bâti avec des pierres vivantes que sont ses disciples. C'est peut-être pour cela que l'église est devenue tellement une église marketing. Vous savez, une église où on cherche à, pardonnez-moi l'expression, mais je suis un peu direct, on cherche à attirer les clients. Il faut de la bonne musique, il faut la bonne température, il faut qu'on soit bien à l'aise, il faut qu'on soit confortable. Chers amis, nous sommes loin de ces disciples qui étaient prêts à tout perdre pour le suivre. Il faut aujourd'hui créer les conditions pour que chacun soit à l'aise afin qu'il reste et demeure dans l'église. Bien-aimés, tout cela devrait nous poser des questions et cette pandémie est en train de nous en poser. Elle nous interpelle. Voyez-vous, je me suis posé la question, mais pourquoi y a-t-il aussi peu de disciples ? Alors encore une fois, loin de moi de vouloir mettre une pression sur qui que ce soit, avec tout le respect que je dois à chacun, mais en analysant cette situation, je me suis dit, mais pourquoi ? Jésus est venu bâtir l'Église avec des disciples. Pourquoi ? L'une des réponses qui m'est venue est la suivante. Je crois malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux disciples simplement parce qu'il y a peu de disciples. Et voyez-vous, qui peut faire de quelqu'un un disciple s'il ne l'est pas lui-même ? Personne. Vous pouvez partager des théories, des enseignements, mais vous ne pouvez que transmettre ce que vous êtes, chers amis. Vous pouvez enseigner sur le discipolat, vous pouvez faire un cours sur le discipolat en 10 fois, mais vous ne transmettrez que ce que vous êtes. Voyez Christ. Christ n'était pas que dans la communication, mais dans la transmission. Il les a pris avec lui. Bien sûr qu'il a communiqué, mais il a transmis. En le regardant, lui qui est le chef de l'Église, lui qui est venu construire son Église, on s'aperçoit qu'il l'a construite avec uniquement des disciples. Et en étant leur modèle, non pas simplement en leur disant les choses, mais en étant le modèle. C'est aux disciples qu'il a enseigné à prier. C'est aux disciples qu'il demande d'être sel de la terre et lumière du monde. C'est à eux qu'il dit qu'ils seront persécutés par tous les hommes à cause de son nom. C'est à eux qu'il expliquait en particulier, dans des paraboles, mais en privé. C'est à eux qu'il expliquait tout. C'est aux disciples. C'est sur eux qu'il répandra son esprit. C'est à eux qu'il va confier la grande mission d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est eux qu'il va équiper par des signes pour que cette prédication soit confirmée. À Pierre, qui lui posera cette question, mais qu'est-ce qu'il adviendra de nous qui avons tout quitté? Il répondra dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici que nous avons tout quitté, que nous t'avons suivi. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mes amis, seuls les disciples héritent de ces promesses. Seuls les disciples ont l'assurance d'être accompagnés de sa présence. Seuls les disciples ont la promesse que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Seuls les disciples ont entendu Christ leur dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, chers amis, je conclus. L'époque que nous vivons, aussi difficile soit-elle, est une grâce. Écoutez-moi bien. C'est une grâce que Dieu nous offre pour nous réveiller de notre sommeil spirituel et nous mettre en mouvement sous la direction du Saint-Esprit. Mais c'est une grâce. C'est une opportunité extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir l'œuvre que Dieu a faite dans mon propre cœur. Vous n'imaginez pas à quel point il m'a bouleversé. Et j'aimerais, chers amis de l'Entente, nous dire ensemble, saisissons cette merveilleuse opportunité. Souvenons-nous que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et acceptons cette pression pour une transformation. Acceptons cette pression pour que, comme le diamant, un jour travaillé par l'orfèvre, puisse briller de ses mille éclats, nous aussi, Église de Jésus-Christ, disciples de Christ, nous puissions là où nous sommes briller et briller pour sa gloire. Chers amis, ne nous plaignons pas de ce qui nous arrive. Regardons ce qui nous arrive comme une grâce de Dieu. Regardons cette pandémie comme un révélateur. Et si parfois elle révèle un visage qui nous rend triste, venons au pied de la croix et disons-lui, Seigneur, change-moi. Change-moi. Ma question aujourd'hui, cher ami, veux-tu être son disciple? Es-tu prêt à accepter la pression et peut-être devoir dire comme l'apôtre Paul un jour, pressé de toutes parts? Es-tu prêt à dire avec lui un jour, abattu mais non perdu? J'aimerais te dire, c'est le passage par lequel, lorsque nous acceptons d'aller, il nous transforme et nous permet de luire sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse richement. Chers amis de l'Entente, que l'Église strasbourgeoise brille. N'ayez pas de crainte. Le Seigneur est avec nous. Et réjouissons-nous d'avoir pris conscience que cette société dans laquelle nous sommes a besoin de nous. Elle a besoin de vous. Elle a besoin à Strasbourg d'une église qui brille de mille feux. Elle a besoin de témoins de Christ. Cette société dans laquelle gronde cette haine contre les chrétiens a besoin de réaliser qu'en réponse, il y a une église qui l'aime. Il y a une église qui l'aime et qui sert un Dieu qui s'est donné pour elle. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous garde. Prions. Père, merci. Merci pour mes bien-aimés qui ont entendu ta parole. Merci pour cette pandémie qui, malgré toute la tristesse qu'elle a pu engendrer au travers des deuils, au travers des épreuves, au travers de la maladie, Seigneur, dont j'ai été personnellement également bien touché, je te remercie pour tout ce qu'elle apporte de bon. Et je veux te remercier parce qu'elle nous ouvre les yeux sur nos propres réactions, comme Pierre a dû réaliser que non, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais en même temps, elle nous donne de l'espérance en sachant que lorsque toi tu viens, tu peux nous transformer, nous changer et faire de nous des disciples dignes, dignes de suivre notre maître. Bénis l'Église à Strasbourg, bénis l'Entente, bénis les pasteurs, bénis les responsables d'Église, bénis Seigneur les disciples qui forment l'Église là-bas. Au nom de Jésus, Amen.
Tout d'abord, merci de votre participation à ce culte de l'entente version distanciée. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment et que ça rapprochera nos églises. Alors, au nom de nous tous, j'aimerais remercier chaleureusement le pasteur Samuel Peter Schmidt pour son intervention, que je n'ai pas encore vue au moment de cet enregistrement, mais je sais que je peux le remercier pour son cœur énorme pour toutes les églises du Seigneur, et en l'occurrence nos églises ici à Strasbourg. Donc, merci Samuel. Peut-être que certains demandent qu'est-ce que l'entente, culte de l'entente. Alors, l'entente, c'est un regroupement d'églises et d'œuvres évangéliques qui existent depuis maintenant plus de 30 ans sur l'Europe métropole. Le nom en entier, c'est l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Europe métropole de Strasbourg. Ça fait un peu long, donc on dit entente. Actuellement, il y a 18 églises et 13 œuvres qui en font partie. Depuis 5 ans, nous sommes antennes du CNEF. Dans ces 18 églises, il y a une toute dernière qui vient de nous rejoindre, c'est l'ECP, l'Église chrétienne de Pentecôte à Ostwald. Donc bienvenue particulièrement à ceux qui nous regardent dans cette église-là. On est très heureux de vous avoir avec nous. Actuellement, il y a 4 églises candidates qui toquent à la porte de notre entente. Alors ce sont l'Église Perspective de la Cruteno, l'Église Maison de prière pour les nations à Neudorf, l'Église Metanoia Sion à Oberhausbergen, et l'Église de Dieu à Elkirch, qui est une église arabophone. Donc, bienvenue particulièrement à ces églises qui nous regardent. Et il y a aussi une œuvre candidate, qui est les Gédéons de Strasbourg. Bien sûr, pour plus d'informations sur l'entente, il suffit d'aller sur le site internet. Donc, vous pouvez juste taper « Entente évangélique Strasbourg », vous trouverez le site assez facilement. Voilà, alors pendant ce culte, nous vous invitons à participer à une offrande. Et cette offrande a un triple objectif. Premièrement, c'est une aide au fonctionnement de l'entente. Il y a quelques frais qui sont occasionnés. Deuxièmement, il y a un fonds de solidarité qui existera bientôt, pour venir en aide aux églises et aux œuvres qui passent par un moment financier difficile en ce temps de crise. Et le troisième objectif, c'est de contribuer aussi à la banque alimentaire de notre département, pour être solidaire avec les besoins humains de tous en cette période difficile. Voilà, donc nous vous invitons à être généreux et solidaires. Et bien sûr, nous allons aussi prier. Donc, nous proposons que chaque église vive un temps de prière dans son culte comme il l'entend, comme il voudra l'organiser. Prions pour notre ville, notre société. Je vous propose simplement 3 axes de prière. Premièrement, pour notre rayonnement à tous. Tout simplement, nous sommes dans une période sombre. La situation économique, sociale, évidemment, est difficile. Deuxièmement, prions les uns pour les autres en tant qu'église et œuvre. Je pense que vous connaissez tous d'autres églises et d'autres œuvres de l'entente. Donc, portons-nous les uns les autres dans la prière. Et enfin, comme Dieu nous le demande dans sa parole, prions aussi pour nos autorités, que ce soit de la ville, de la région ou du pays. Peut-être aussi une pensée particulière, une prière particulière pour la préfète de notre département qui a des décisions délicates à prendre. Donc, nous vous invitons à ce temps de prière, à cette solidarité par votre générosité, et nous vous disons à bientôt pour d'autres moments fraternels.
Je ne sais pas pour vous, mais je pense que ce message a été particulièrement impactant et qui nous challenge tous. Et on pourrait dire, ben, on repart comme ça et puis hop, c'est un message qui passe. Ou on pourrait dire, à la suite de ce que Glenn vient de nous partager, on a besoin de prendre un temps de prière. Et je vous propose qu'on puisse prendre un peu de temps ensemble. On n'est pas trop en retard sur notre timing et je voudrais juste qu'on puisse prendre un temps de prière maintenant et qu'on puisse prendre des positions. Je pense que dans ce que Samuel Peter Schmidt nous a partagé, il y a une question de choix. Et je sais que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez fait un choix de venir. Et Dieu nous engage dans des choix. Et peut-être qu'on a besoin d'être encouragé ce matin, d'être boosté, de dire « Seigneur, je veux prendre ma place en tant que disciple. Je veux être là, je veux marquer ma génération. » Parce que c'est dans cette génération qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de prier pour notre pays. On a besoin, et Glenn a déjà mis les sujets en place. Et je voudrais qu'on puisse prendre ce temps ensemble pour prier. Et je ne sais pas comment vous avez l'habitude de prier, moi j'aime bien prier debout parce que je veux me dynamiser dans ce sens-là. Et je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui le peuvent. Et qu'on vit, qu'on puisse passer un temps vraiment dans la prière. Il y a deux façons de prier. Soit il n'y a que moi qui prie et puis je suis tout seul et vous dites Amen. Soit on peut tous prier ensemble. Et on dit Amen ensemble. Et moi, je suis pour la deuxième option. Que tous ensemble, toute l'Église puisse se mobiliser. Je crois que l'Église de l'Épi a un rôle à jouer dans cette ville. Je crois que vous avez individuellement un rôle à jouer dans ceux qui sont autour de vous. Est-ce que ce matin, on veut être des disciples de Christ ? Est-ce qu'on veut s'engager profondément à dire « Seigneur, je veux prier pour ma ville. Je veux prier pour ceux qui sont autour de moi. Je veux laisser le Saint-Esprit me conduire et je veux impacter et que la pression m'amène non pas à m'écraser, mais encore à porter encore plus de fruits. » Amen. On prie ensemble ? Seigneur, on est devant toi. Alléluia, Jésus. Je vous invite à élever la voix. Seigneur, on te bénit, Seigneur, ce matin. Parce que, Seigneur, tu sais, tu connais. Parce que tu es là, parce que tu es présent. Et Seigneur, désir de nos cœurs ce matin, c'est que tu puisses nous pousser à devenir encore plus proche de toi. On a besoin d'être encore plus proche de toi. Seigneur, on a besoin, Seigneur, d'être là ensemble. On a besoin de prendre notre position. Je te prie pour tous ceux qui sont froids ce matin. Pour tous ceux qui sont dans le doute, dans l'inquiétude. Oh Seigneur, pose ta main, Seigneur, ce matin. Seigneur, on veut prier pour notre ville. Seigneur, on veut prier pour nos autorités. Seigneur, on veut prendre, Seigneur, cette position spirituelle de prier pour notre ville. Seigneur, merci parce que tu es là et tu nous conduis. Seigneur, tu nous amènes, Seigneur, à vivre quelque chose de plus grand, de plus fort. Que l'Église de l'Épi puisse rayonner maintenant. Que l'Église de l'Épi puisse prendre sa place, Jésus. Alléluia, Jésus, on a besoin de toi. Merci, Père éternel, parce que tu es là. Seigneur, tu es présent, Seigneur, et tu viens parler à nos cœurs. Oh, Jésus, viens. Seigneur, ensemble, on veut te prier pour chaque personne qui est là, pour chaque membre de l'EPI, pour chaque participant qui est à l'EPI. Seigneur, afin que tu viennes nous réveiller ensemble, afin que nous puissions prendre ensemble ce matin des décisions en disant, Seigneur, on ne va pas rester statique, mais on va être des acteurs du royaume de Dieu. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui est là dans ce lieu, afin que dans son cœur, tu puisses ranimer la flamme, tu puisses ranimer, Seigneur, ce que tu as déposé au fond de son cœur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que dans les groupes de maison, dans les contacts qu'on a avec les uns et les autres, Seigneur, ton esprit vienne nous renouveler. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour la ville de Strasbourg. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous avons notre rôle à jouer sur cette ville. Nous voulons être les témoins de Jésus-Christ sur la ville de Strasbourg. Seigneur, bénis nos autorités, bénis cette nouvelle mairie, bénis, Seigneur, ces gens qui travaillent pour nous. Seigneur, bénis encore la ville de Strasbourg. Seigneur, nous croyons que tu ne nous as pas placés là par hasard, mais afin que l'Église puisse briller comme un phare au milieu des ténèbres. Seigneur, nous voulons te prier pour les autorités de notre ville. Seigneur, parce que tu les as placés là. Et Seigneur, tu vois chaque responsabilité, chaque décision à prendre, aussi difficile soit-elle. Nous te prions que tu viennes les accompagner, les entourer. Nous te prions que l'Église soit là pour les soutenir dans la prière. Seigneur, nous voulons ensemble te prier pour les autorités. Nous croyons, Père éternel, que tu bénis la ville de Strasbourg. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a un rôle que nous devons prendre. Seigneur, je te prie pour un réveil spirituel dans chacune de nos vies. Non pas simplement de l'extraordinaire, mais simplement une plus grande communion avec Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de vivre cette intimité avec toi. Seigneur, merci pour chaque disciple qui est là ce matin. Merci de le renouveler, tu connais les soucis et les inquiétudes. Mais Seigneur, nous te posons tout à tes pieds. Et nous croyons que tu es le Dieu vivant et vrai qui nous a appelés, qui nous accompagne jour après jour. Seigneur, nous te bénissons pour ce message. Et que ce soit un point de départ, peut-être pour vivre quelque chose de nouveau avec toi. Merci, Père éternel. À toi la gloire, à toi la puissance et la force. Merci d'être au-dessus de tout. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu ? Est-ce qu'on peut prendre cette position ? Alléluia, Jésus. Alléluia. Je crois vraiment qu'il y a des positions à prendre. Amen. Ça fait plusieurs messages où Dieu vient nous challenger en tant qu'Église. Et je crois qu'on a besoin d'aller encore plus loin. Je vais laisser la place à Michel pour la conclusion de ce culte et que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup de votre participation ce matin. Merci pour Pierre Samuel, pour le groupe de louanges. Merci d'être avec nous pour ce temps particulier. J'étais, comme vous, interpellé par le message, et je crois que c'est juste de se poser la question, où est-ce que j'en suis, moi, dans ce temps de crise ? Je crois que nous ne sommes pas au bout de la pression. La pression est en train de monter encore d'un cran. Avec cette semaine, vous avez vécu comme moi les informations avec l'assassinat de cet enseignant. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans notre société et ça met une pression. Et ça nous pose la question, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça ? Alors, être un disciple de Jésus-Christ, c'est ce que je veux être, c'est ce que nous voulons être. Et ces circonstances et l'environnement qui est le nôtre en ce moment est un réel défi pour vraiment se reprendre, se réveiller et devenir un disciple de Jésus. En tout cas, c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite pour nous tous, c'est ce que je souhaite aussi pour l'EPI, que nous soyons de véritables disciples de Jésus-Christ. Alors on repart avec quelque chose de fort ce matin, les uns et les autres, et vous qui êtes derrière votre écran certainement aussi, mais gardons précieusement ce que nous avons reçu. Ne laissons pas retomber cela. Et sous l'effet de la pression, eh bien, nous voulons être de véritables disciples. C'est Jésus qui compte. C'est lui l'essentiel. Que notre vie soit de plus en plus christocentrique, centrée sur Christ. C'est lui. C'est lui. Et tout est à propos de Jésus. Et tout a toujours rapport avec Jésus. Ma prière pour vous ce matin, c'est que nous soyons toujours plus près de Jésus. Je pense que là, on est dans la bonne direction et on fait ce qui est nécessaire. Donc, peut-être que pour les uns, ça sera de prendre un peu plus de temps pour la prière, peut-être pour d'autres, un petit peu plus de temps pour la lecture, la méditation de la Bible. Peu importe, être plus près de Jésus, ça ne vient pas comme ça. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas comment Dieu vous a parlé ce matin et quel est le prochain pas à faire. En tout cas, quel que soit ce pas, ma prière c'est fais-le. Fais-le. On a été challengés ces dernières semaines, on nous a lancé des défis et on a remarqué avec l'équipe pastorale qu'après chaque défi, il y avait comme un flottement. Mais à un moment donné, il faut se lancer, il faut dire oui, maintenant j'y vais. J'ai fait ce choix, j'ai pris cette décision, j'y vais. Je me lance et je fais ce que j'ai dit au Seigneur, ce que je voulais faire. Alors, que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux notre propre progression spirituelle. Ça nous appartient. Eh bien, que le Seigneur nous soit en aide pour cela et qu'il nous accompagne dans ces bonnes décisions, cette bonne démarche. Seigneur, je te remercie pour le message de ce matin, je te remercie pour ce culte, je te remercie pour tout ce qui a été partagé, tout ce qui a été dit, et nous prenons cette parole comme venant de toi. Et notre foi, c'est de croire que ce que tu dis est vrai, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour nous, et en accord avec cette parole, voulant te dire, nous voici, nous sommes là, merci de nous aider à mettre ta parole en pratique. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Je regardais juste si le live était bien coupé. C'est bon.